Alors ce soir, on va aborder le chapitre 10 du livre de Marc. Donc pour rappel, on est dans une séquence où Jésus est en train en quelque sorte de parachever sa mission terrestre. Et tranquillement, en fait, ce petit groupe est en train de se rapprocher de Jérusalem pour ce qui va être vraiment le dénouement du récit. Bon, il reste quand même 6 chapitres. Mais voilà, comme on l'avait dit, les 10 premiers chapitres sont très très dynamiques avec beaucoup beaucoup de déplacements et les 6 derniers chapitres se focalisent autour de Jérusalem sur les 3 derniers jours, 3-4 derniers jours. Donc là on est à la fin de ce mouvement très dynamique et on a vu que le chapitre 9 a été marqué par notamment des préoccupations très charnelles des disciples qui visiblement sont encore très souvent à côté de la plaque dans pas mal de domaines. On se rappelle qu'en fait, quand il y a eu la transfiguration, ils ont voulu dresser le temple pour Jésus, pour Moïse et pour Élie. On avait lu au verset 10 du chapitre 9, ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que de ressusciter des morts. Donc on voit qu'ils sont encore un peu perdus. Et ils ont après interdit à un homme de œuvrer pour Christ, sous prétexte qu'il ne le suivait pas. Et on voit aussi que là, ils ont été repris par le Seigneur. En fait, Jésus est en train de leur faire comprendre au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de Jérusalem, que ce qui attend le Messie là-bas est une épreuve. Et il leur a fait comprendre petit à petit qu'il va vraiment devoir souffrir. Et donc, il est obligé de les reprendre sur des manifestations de leur attitude qui sont encore trop charnelles. Donc là, on arrive au chapitre 10. Est-ce que quelqu'un veut lire les 12 premiers versets de Marc 10 ?
Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse nous a donné ce passage. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a choisi. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme qui a épousé une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère.
Voilà, merci pour ce passage. Donc ici, on a les pharisiens qui viennent aborder Jésus sur la question du divorce et donc du mariage aussi. Et vu comme ça, la question peut paraître anodine, on peut imaginer que ceux qui posent la question viennent avec des bonnes intentions pour réellement être éclairés par ce rabbi. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, on va réaliser que les pharisiens sont en train de tendre un piège au Seigneur au travers de cette question. Et on va voir un peu que à l'image d'une araignée qui tisse sa toile, ils veulent vraiment le coincer avec cette question. Je vous ai mis sur les feuilles d'abord un petit schéma du paysage religieux de l'époque. On va juste en dire quelques mots pour faire un petit rappel en fait, parce que des fois on voit que ce sont les pharisiens, des fois les sadducéens, des fois les esséniens. Enfin, il y a plusieurs groupes religieux c'est important de rappeler qui sont-ils. Il y a des différences théologiques assez significatives entre ces groupes, mais le lien qu'ils avaient, c'est que bon, c'était des juifs, bien sûr, tout ça, ce sont des groupes issus des juifs, et ils se réfèrent tous à la Torah, à la loi. Et il ne faut pas oublier aussi les Samaritains, qui est un autre groupe, mais qui eux s'étaient séparés et adorés sur un autre temple. Et donc, il y a des différences théologiques et aussi politiques concernant notamment la position de ces groupes face à l'autorité de Rome, qui est l'occupant. Rome domine la région, Et ces différents groupes n'ont pas les mêmes positions vis-à-vis de Rome. Donc, dans ce que je vous ai marqué, plus on va vers la gauche, plus les groupes sont favorables aux Romains. Et même, ils étaient même participants des démarches de l'Empire, on va dire. Et plus on va aller sur la droite, plus les groupes s'opposent à Rome, jusqu'à avoir des groupes totalement hostiles à l'Empire. Ce sont les révolutionnaires, avec notamment les Sicaires, les Zélotes, qui étaient vraiment des groupes qui étaient prêts à en découdre, hein, qui n'hésitaient pas à mener des affaires. Donc voilà, on ne va pas regarder dans le détail quelles sont les différences théologiques de tous ces groupes. Si jamais vous avez des questions, j'ai des éléments pour vous répondre. Mais donc on va se focaliser sur le groupe des pharisiens, puisque c'est vraiment eux qui viennent voir Jésus dans le passage qu'on est en train de voir là, au verset 2. Ce sont les pharisiens qui viennent voir Jésus. Les pharisiens, c'est le groupe qui est le plus représentatif dans la population. On estime qu'il y en a à peu près 6000 en Palestine. C'est le groupe le plus nombreux. Et ce sont eux qu'on vient voir pour trancher de toutes les questions pratiques et les différents cas de figure qui se présentent. Ils ont en quelque sorte ils ont pris le lead spirituel. C'est eux qu'on vient voir pour les questions importantes. Donc bien sûr, ils reconnaissent les 10 commandements principaux, mais on sait que dans la loi, il y avait 613 commandements identifiables, et donc c'est vraiment à ces 613 commandements qu'ils obéissent. Et en plus de ça, ils ont rajouté ce qu'on appelle la loi orale, ou la tradition orale, qui en fait rajoute une liste de commandements qui sont censés se baser sur la véritable loi. Et donc tout ça, c'est rapporté dans un document d'ailleurs qui s'appelle la Mishnah, qui est un recueil de cette tradition orale qui a été répertorié à peu près en 200 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour parler globalement des pharisiens, mais je suis désolé, dans ce groupe-là, il faut encore faire un sous-groupe pour bien comprendre le passage qu'on étudie ce soir, parce qu'à l'intérieur de ce groupe, il y a des sous-groupes qu'on peut mettre sous deux écoles de pensée et qui se polarisent autour de l'enseignement de deux rabbis. Vous avez, je crois que, je ne sais pas si Boris en avait parlé un petit peu, je crois, vous avez le rabbi Shammai, qui lui fait partie de l'école de pensée la plus stricte sur l'application de la loi, de la Torah, une tendance rigoriste. Et puis vous avez ceux qui sont plutôt du côté du rabbi Hillel, qui lui est plus souple et qui a une interprétation plus libérale. Et ces deux écoles de pensée ont aussi une approche qui va être plus ou moins fermée face à la culture grecque qui avait envahi la Palestine depuis déjà plusieurs siècles. En fait, voilà, il va y avoir des positions un peu différentes. Et un des points de discorde les plus représentatifs entre ces deux écoles concerne justement leur conception du divorce. Et on peut lire ce qui est écrit du divorce dans Deutéronome 24, versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît, Deutéronome 24. Verset 1 à 4.
Si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle une lettre de divorce et la lui mettra dans la main, et la renverra hors de sa maison. Et elle sortira de sa maison, elle s'en ira, et elle pourra être un autre homme. Et si le dernier mari la hait, et qu'il lui écrit une lettre de divorce et la lui mette dans la main, et la renvoie de sa maison, et si le dernier mari qui l'avait prise pour sa femme vint à mourir, alors son premier mari qui l'a renvoyée ne pourra pas la reprendre pour être sa femme après qu'elle aura été rendue impure. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne chargeras pas de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage.
Voilà, donc ça c'est ce que dit la loi concernant le divorce. Alors, donc toi tu avais dans ta traduction quelque chose de malséant. Si le mari trouve quelque chose de malséant chez son épouse, ça peut être traduit aussi, moi j'avais quelque chose de honteux, vous avez peut-être cette traduction, mais oui. Ça veut dire la même chose en fait, ça vient de l'hébreu erva, ça parle des choses qui ont rapport avec la nudité, avec la pudeur. Mais c'est quand même on est d'accord, assez flou, en fait. Hein. Le terme semble renvoyer à quelque chose d'indécent, d'incorrect, qui ne doit pas se faire. J'ai regardé aussi ce que dit la Septante. La Septante, en fait, c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Pour voir, parce que comme le Nouveau Testament est en grec, pour comparer les termes. Donc, c'est le mot, dans la Septante, c'est le mot askémonéo, qui signifie, pareil, se conduire de façon malhonnête ou déshonorante. Donc, c'est quand même un peu flou, mais on comprend qu'il n'est pas question d'adultère. Puisque le cas de l'adultère est clairement traité dans la loi, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes, c'était la peine de mort qui s'appliquait. Donc là, nous sommes sur quelque chose qui est différent. Et c'est donc justement l'interprétation de ce mot qui fait débat entre les deux écoles de pensée au sein des pharisiens. Rabbi Shammai, qui est plus strict, pour lui, en fait, il fallait que la faute soit vraiment scandaleuse pour que le divorce soit validé par cette lettre de divorce. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose de grave, un cas de figure compliqué qui remettrait en cause la bonne marche du mariage. Par contre, pour le rabbi Hillel, là c'était beaucoup plus souple. Et en fait, on considérait en exagérant à peine que si l'épouse avait raté son bœuf bourguignon, c'était un motif suffisant pour recevoir une lettre de divorce. C'était un peu ça. Pardon ?
Quelque chose dans le tête de la terre ou...
quand même.
Est-ce que ça, c'est quelque chose de honteux ?
Non, mais j'exagère. Mais, disons qu'effectivement, c'était en fait, il pouvait donner des lettres sous des motifs qui n'étaient pas graves. Quoi. C'était ça la différence. Et donc, regardons maintenant comment les pharisiens vont se servir de cela pour piéger Jésus. En fait, au verset 2, il est bien marqué qu'ils viennent pour l'éprouver. Leur objectif n'est pas de profiter de son éclairage pour enfin trouver une position nette sur ce sujet. Leur objectif, c'est bien, en fait, de diviser les auditeurs de Jésus et de dégrader la popularité de Jésus. On note qu'ils attendent vraiment le bon moment. Verset 1, il nous est confirmé qu'ils étaient en présence de la foule. Donc c'était quelque chose de vraiment public. De telle manière que tout le monde puisse entendre la réponse. Donc le premier but de cette question, c'est de créer en fait une faille et de saper la notoriété, la popularité de Jésus en le forçant à prendre position. Et donc il y a aussi un deuxième objectif qui est encore plus vicieux, qui se manigance, parce qu'en fait si ça fonctionne, là ce qu'ils sont en train de faire, les conséquences peuvent être assez terribles pour nous ici. On a lu... que Jésus se rendit dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain, ça représente la région de la Pérée. Et Pérée, c'est justement la zone dans laquelle Hérode Antipas gouvernait. Ils avaient donc en tête de provoquer le Seigneur pour que peut-être il subisse le même sort que Jean-Baptiste, qui avait été décapité justement pour s'être opposé au divorce d'Hérode. Tout ça, c'est des choses qu'on lit dans Marc 6, versets 17 à 18. Vous pourrez aller regarder. Et donc, si devant témoins, devant cette foule, Jésus se mettait à entrer dans la même opposition que son cousin Jean-Baptiste, alors les pharisiens pourraient espérer que Jésus soit directement exécuté par Hérode, et en fait, il lui laisserait faire le salut quelque part. Donc on voit que c'est quand même assez malin, assez vicieux, on pourrait dire. Et regardons maintenant comment le Seigneur va répondre à tout ça. Il aurait très bien pu esquiver la question. Il l'a fait à d'autres moments. Le Seigneur a pu répondre avec une autre question encore plus complexe. Ça, c'est des choses qu'il a pu faire. Mais là, c'est pas le cas. Là, il y va. Il cherche pas à rentrer dans le débat concernant les différentes interprétations venant des différentes écoles de pensée. Il ne base pas non plus sa réponse par rapport à la loi oral qui a été ajouté. Il explique que Moïse a effectivement donné un précepte dans la loi qui traite la question du divorce, c'est ce que nous avons vu dans Deutéronome 24, 1 à 4, mais il ne va pas s'arrêter là. Il revient directement à la volonté première de Dieu sur le sujet. Au verset 6, il est écrit « Mais au commencement de la création ». Et il rappelle le plan initial de Dieu concernant le mariage entre un homme et une femme. Il rappelle que le mariage fait de l'homme et de la femme une seule chair. Et il conclut en ordonnant que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint. Donc en fait, il précise que ce qui a été rajouté dans la loi sur le divorce, c'est quelque chose qui a été provoqué par les hommes, mais ce n'était en aucun cas quelque chose de désiré par Dieu. C'était plus comme une sorte de concession, plutôt qu'une directive. Et en fait, on voit que les pharisiens auraient très bien pu par eux-mêmes en arriver à cette conclusion, en regardant des passages qu'ils avaient entre les mains, hein, comme Malachie 2, versets 14 à 16, si quelqu'un veut le lire.
Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance ? Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles.
Voilà. Donc, en plus du texte de la Genèse, les Juifs avaient bien ce texte-là de Malachie qui parle du fait que Dieu ait la réputation et qui parle de l'unité dans le couple. Et donc là, en fait, on se rend compte aussi qu'on est en train de toucher à une des raisons pour lesquelles le Seigneur rencontre autant d'hostilité de la part des chefs religieux. C'est qu'en fait, Jésus est capable à certains moments de modifier la loi. Alors, peut-on modifier la loi ? Même à nous, quand on se pose la question, ça peut un petit peu nous crisper. Et en fait, pour les pharisiens, c'était quelque chose de totalement intenable. La plupart du temps, nous voyons que Jésus confirme la loi. Il se décrit lui-même comme l'accomplissement de la loi. Nous allons voir juste après avec le jeune homme riche qu'il confirme vraiment les 10 commandements. Tout ça, c'est confirmé aussi dans Matthieu 5, 17, si quelqu'un veut le lire.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Voilà. Il est là pour accomplir la loi. Jésus, bien entendu, n'est pas contre la loi. Mais comme il est Dieu, il peut aussi la transformer. Parce qu'il est Dieu et qu'il connaît le but de la loi. Il connaît son objectif. Et ici, en quelque sorte, il veut revenir à la volonté initiale de Dieu en annulant cette possibilité de lettre de divorce qui avait été permise parce que cette loi, en fait, écarte de l'objectif premier. Nous voyons par là que Jésus a vraiment pleine autorité pour affirmer ce qu'est la véritable loi et pour corriger ce que les hommes n'ont pas bien interprété. On peut lire hein, sur le sermon sur la montagne dans Matthieu, il dit « Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. » On a aussi des passages dans Marc 7, versets 18-19, où il corrige la compréhension de la loi sur la consommation des aliments. Il va aussi apporter un éclairage nouveau sur le sabbat. C'est d'ailleurs un des seuls commandements qu'il n'a pas confirmé. Et donc cela, ça agace vraiment les responsables religieux qui ne comprennent pas quelle est l'identité de Christ, bien entendu. Et donc, en fait, tout ça apporte vraiment de la tension entre Jésus et les chefs religieux. Et après, à partir du verset 10, dans Marc 10, dans le passage qu'on étudie ce soir, on va rentrer dans une phase plus intime entre le Seigneur et ses disciples, parce qu'ils vont se retrouver à l'intérieur d'une maison. Les disciples, eux, ils ne veulent pas prendre le Seigneur au piège, bien entendu, mais ils cherchent vraiment à comprendre ce que le Seigneur enseigne sur le sujet, parce qu'eux aussi peuvent peut-être se poser des questions. Et en fait, il leur confirme en allant plus loin. Il affirme que si l'homme se sépare de sa femme pour un motif quelconque, parce que tout à coup il y a quelque chose qui le dérange dans le comportement de son épouse, ou parce qu'il y a incompatibilité de caractère, ou autre, cet homme sera dans l'erreur. Et s'il épouse une autre femme après avoir divorcé, il sera aux yeux de Dieu en situation d'adultère. Donc, oui, sur ce point, on peut dire qu'il y a un retour en arrière de ce qui avait été concédé dans la loi. Jésus, ensuite, au verset 12, et ça c'est important aussi, place la situation de l'homme et de la femme au même niveau. Il dit, et de même si la femme. Alors que les pharisiens n'ont exposé qu'une éventuelle faute de la femme, signe encore de leur mauvaise compréhension ou interprétation du mariage, dans une sorte de sentiment de supériorité. Donc Jésus rappelle que ce qui est dit pour l'homme est valable aussi pour la femme, ça marche dans les deux sens. Et pour être complet, nous devons aussi préciser, même si Marc n'a pas choisi de le rapporter dans cet évangile-là, nous devons préciser que Jésus a rapporté un seul motif valable du divorce, et cela concerne l'infidélité de l'un ou de l'autre des époux. On peut trouver ça dans Matthieu 19, verset 9, si quelqu'un veut le lire.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.
Voilà. Donc là, le mot grec utilisé, c'est porneia, qui parle bien d'infidélité sexuelle, et qui est différente de askemoneo, qui n'a pas tout à fait la même traduction. Donc là, il est bien question d'infidélité. Donc ici, c'est le seul cas possible de divorce pour celui qui est trompé, même si la Bible pousse toujours au pardon. Rompre l'unité de la chair en se mélangeant avec votre chair est signe de contrat possiblement rompu, et laisse donc aux chrétiens trompés la possibilité de se marier sans être dans une situation de péché, même si, comme on l'a dit, la Bible pousse bien sûr au pardon. Donc voilà pour ce débat autour du divorce. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette séquence ? Déjà, la première application, c'est de se dire qu'il ne faut pas fuir devant les sujets sensibles. C'est vrai que notre foi, parfois, et c'est de plus en plus le cas, va paraître un petit peu décalée, notre compréhension éthique va paraître un petit peu décalée dans ce monde, mais nous avons reçu cette mission de transmettre la lumière de Christ. Dire la vérité, c'est des fois difficile, mais ce n'est jamais une erreur. Et même si nous risquons de perdre en popularité, nous sommes appelés vraiment à être le sel de la terre. Et aussi, à dire les choses avec douceur, c'est pas tout de dire « voilà ce que dit la Bible » et de chercher à l'imposer. Il faut toujours vraiment se mettre au niveau des personnes pour pouvoir faire passer les messages avec douceur. Ça nous est rappelé dans Colossiens 4, 6, si quelqu'un a trouvé ce passage.
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Voilà. Donc on voit toute la douceur qui est demandée. Il y a le sel qui aseptise, donc qui est bien là pour apporter la vérité, mais également accompagné de grâce et en fait assaisonné pour que vraiment ça puisse être audible. Voilà. Donc, des sujets, des fois sensibles, il faut imiter le Seigneur et ne pas chercher à les éviter. Également savoir remonter à la source de ce qu'enseigne la parole. Oui, là c'est pareil, avoir la même démarche que Jésus. Il remonte à ce que dit la parole sur les intentions premières de Dieu, sans chercher à tirer des conclusions en se basant sur les erreurs des hommes. Et en fait, c'est vraiment un réflexe que nous devons avoir. La parole, nous savons, ne change pas. Jésus a préféré se concentrer sur ce que dit la Bible sur le mariage, plutôt que de polémiquer sur le divorce. En fait, dans ce qu'il dit, il parle quasiment plus du mariage que du divorce. Et ça aussi, c'est quelque chose dont nous pouvons nous inspirer, revenir à ce que dit la parole, aux intentions de Dieu. Parce que les intentions de Dieu, nous savons qu'elles sont bonnes et qu'après, ce sont les hommes qui dégradent les choses. Également, respecter la pensée de Dieu sans chercher à la couronner. Si nous négligeons les deux points précédents que nous venons de voir, mais nous risquons effectivement de rentrer dans une forme d'accommodation de la parole et finalement prendre le risque de tordre le sens et de nous retrouver dans l'erreur. Donc ça, c'est quelque chose aussi à laquelle nous devons veiller, d'avoir la sincérité de comprendre ce que dit la parole, chercher sincèrement ce que nous dit la parole.
Voilà donc pour ce passage, on va continuer, on va passer au verset 13. Est-ce que quelqu'un veut lire la séquence entre le verset 13 et le verset 16 ?
Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit.
Voilà. Donc ici, nous avons un épisode avec les enfants, et c'est la deuxième fois en peu de temps dans le livre de Marc que Jésus prend l'innocence des enfants en exemple. On se souvient qu'il avait placé un enfant au milieu d'eux dans Marc 9, je crois, oui. Francis, pour le prendre en exemple. Et donc, pour bien comprendre ce passage, nous devons réexpliquer la place des enfants dans la société juive de l'époque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même une grande différence avec ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Pour caricaturer, aujourd'hui, on pourrait dire que les enfants, ils dominent presque la société. C'est vrai que dans pas mal de familles, ce sont eux qui commandent. C'est une tendance actuelle. Et de l'autre côté, les personnes âgées, dans notre société, sont moins considérées comme une sorte de mise au placard. C'est vrai que qui n'a pas râlé parce qu'il n'avance pas assez vite en voiture, qui n'a pas râlé parce qu'ils font des courses en plein après-midi, enfin aux heures de pointe alors qu'ils pourraient y aller en plein après-midi. Enfin, je rigole, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une place qui est donnée vraiment aux enfants et on a tendance effectivement à moins considérer les aînés. Au temps de Jésus, la situation était inversée. Au temps de Jésus et aussi dans certaines cultures actuelles dans le monde d'aujourd'hui. Là, ce sont les aînés qui ont le respect absolu et les enfants ont un statut beaucoup plus humble, sans aucune influence sur ce que peuvent vivre les grands. Et en fait, là, c'est pour ça que c'est un tout petit événement que des enfants puissent déranger une personne aussi importante qu'un rabbi. Et je me demande si ce ne sont pas les mères qui ont peut-être amené les enfants à Jésus, parce qu'elles ont peut-être pu voir l'affection qui s'est dégagée de ce personnage, donc c'est peut-être elles qui les ont amenés. En tout cas, celles ou ceux qui les ont amenés, les enfants, devaient avoir parfaitement confiance en lui, en Jésus. Et lui, donc Jésus, était tout heureux de les accueillir. Mais bien sûr, lorsque les disciples s'en sont rendus compte, ils ont voulu les chasser, parce que ça témoigne vraiment de la mentalité de l'époque. C'était comme ça. Donc Jésus va reprendre les disciples, et il montre une fois de plus combien il s'intéresse à la totalité des âmes qui l'environnent. Et il démontre son amour envers les plus vulnérables. C'est vraiment d'ailleurs ça qui caractérisait les enfants à l'époque, c'est leur vulnérabilité, y compris dans leur santé, puisqu'on sait qu'il y a un taux de mortalité infantile qui était très très élevé. Donc c'était vraiment des êtres vulnérables, les enfants, à l'époque. Il va dire « Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ». C'est quand même une déclaration qui est très forte et très révélatrice. Jésus veut montrer que l'innocence des enfants les rend aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Quand on a dit ça, bien sûr, il n'est pas question de dire qu'ils n'ont pas de péché, les enfants, ou qu'ils ne font rien de répréhensible. Mais en fait, leur cœur ne se charge pas de la culpabilité dans leur jeune âge. Et nous savons que cette caractéristique est partagée aussi par ceux qui peuvent être déficients mentalement, par exemple, des personnes qui sont handicapées. Et donc, cette innocence vis-à-vis de leur culpabilité les protège. Moi, ma conviction, c'est que les enfants, quand ils sont jeunes, sont couverts par cette innocence et sont donc automatiquement sauvés s'il devait leur arriver un malheur. Cette déclaration du Seigneur qui nous dit « Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » est déjà une base doctrinale solide pour pouvoir l'affirmer. Et puis, c'est logique. Puisque nous savons que les enfants, donc, ils héritent du péché à la naissance, mais ils n'ont pas le temps de réaliser qu'ils sont pécheurs pour pouvoir choisir de croire au Seigneur. Et donc ce serait absolument injuste de la part de Dieu que de leur infliger une punition alors qu'ils n'ont pas pu se positionner, et on sait que Dieu n'est pas quelqu'un d'injuste. Les paroles que le Seigneur adresse ici, donc en direction des enfants, je pense, sont là pour rassurer les parents. Et il y a aussi notamment un passage dans l'Ancien Testament qui confirme cette idée, c'est dans 2 Samuel 12, 23, si quelqu'un veut le lire.
Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je te faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver. Maîtrise-lui, ne reviendra pas vers moi. C'est bien Samuel 2, 12.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Là, en fait, nous sommes au moment où David va mourir son enfant à cause de sa propre faute. Et donc, il sait qu'il va le retrouver au ciel. David ne pouvait pas nous induire en erreur ici, sinon la parole de Dieu ne serait pas fiable. Donc ça aussi, c'est une indication qui nous montre que ce jeune enfant qui est mort enfant, il va le retrouver dans le ciel. Au verset 16 du chapitre 10 que nous étudions, on voit que le Seigneur les bénit et il leur impose les mains. Et ça, c'est la confirmation de cette sorte d'onction particulière sur les enfants, c'est comme une protection. Et le fait qu'il leur impose les mains, c'est vraiment un signe d'identification au royaume de Dieu. On sait que dans le livre des Actes, notamment, cette pratique visait surtout à attester l'appartenance des chrétiens à l'Église. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Il leur impose les mains, ils appartiennent au royaume de Dieu. Au niveau des applications de ces trois versets, en fait, ça nous invite à ressembler aux enfants qui viennent à Jésus avec joie et simplicité. Même si nous ne pouvons plus revenir dans cet état d'innocence concernant notre péché, nous pouvons par contre tendre vers la volonté de chercher à ne rien dissimuler au Seigneur. Ça, c'est quelque chose vraiment que nous pouvons travailler, de ne pas chercher à cacher les choses au Seigneur. Et également, nous devons venir à lui sans rien, les mains vides. On comprend en fait que le simple fait d'être des enfants, c'est ça qui a attendri le Seigneur. Parce que c'est vrai, nous aussi, on est attendri quand on a des enfants, quand on les regarde. Et est-ce que nous sommes prêts à croire que Jésus n'attend pas que nous présentions des valeurs ou des mérites que nous aurions accumulés nous-mêmes? En fait, il nous aime simplement par le fait que nous existons. Nous n'avons pas besoin de le mériter ou de se présenter sous un beau jour à ses yeux. Et ça, c'est quand même parfois quelque chose pour nous qui sommes adultes, des fois difficile à comprendre. Parce que, globalement, on ne s'aime pas soi-même. On voit tout ce qui ne va pas. Et c'est un véritable mystère que de se dire que lui, il nous aime tel que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous devons chercher à croire. Un peu comme les enfants sont sûrs de l'amour de leurs parents, et ils se jettent dans leurs bras, nous c'est pareil. Nous devons venir à lui avec cette assurance qu'il nous aime vraiment dès lors que nous existons. Alors, on va passer sur un autre, la suite du passage. Est-ce que peut-être on peut faire peut-être une petite pause? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, des questions, des choses qui vous interpellent?
Oui, j'aurais une question. Par rapport aux enfants, à l'âge de Dieu, il y a un âge de responsabilité par rapport à la conscience de croire.
Alors, c'est pas indiqué dans la parole. On comprend là qu'il s'agit vraiment de jeunes enfants.
Il les prend dans les bras.
Il les prend dans les bras. Bon, on évoque parfois l'âge de 12 ans, dans certains versets, je les ai plus en tête. En fait, moi, j'ai étudié quelque chose sur un message que je suis en train de préparer, et j'ai fait un petit parallèle. Je me rends compte qu'en fait, on peut peut-être corréler ça à la pudeur. Et en fait, quand un enfant devient pudique, je me demande si c'est pas ça qui peut aussi annuler son innocence, en fait. Parce qu'on peut revenir à Genèse et au fait que Adam et Ève se sont cachés devant Dieu parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et on sait qu'un enfant, ça ne dérange pas d'être nu. Enfin, il s'en fiche sur la plage ou comme ça. Donc, ça c'est vraiment qu'un avis personnel, une réflexion personnelle, mais peut-être que c'est une source de réponse. Je ne sais pas.
Donc, ça dépend aussi des cultures. Vous avez des cultures où les enfants sont pudiques très très tôt.
D'accord.
Il y a des cultures où les enfants sont pudiques très très tard.
Oui,
c'est ça. En Afrique, par exemple, une fille dès l'âge de 6-7 ans, c'est fini, hein. La pudeur est déjà là.
Oui, puis ça dépend, ça dépend aussi de l'éducation qu'on donne aux enfants. Moi, j'ai un petit témoignage personnel. J'étais élevée avec le catéchisme, donc j'étais faire ma première communion. Et à 8 ans, quand je suis allée me confesser pour ma première communion, c'est pas au prêtre que je me confessais, c'était vraiment à Dieu. Même si c'est les péchés que moi, je pensais... Enfin, j'avais une culpabilité qui était déjà là, puisque je savais qu'il y avait des choses qui étaient pas bien.
Qui étaient défendues.
Voilà, qui étaient défendues, comme prendre un gâteau. Alors, c'était prendre un gâteau alors qu'on n'a pas le droit, ou mentir, voilà. Mais à 8 ans, j'avais cette conscience-là. Mm-hmm. Mais je pense que ça dépend pas mal de la culture, de l'éducation.
C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas donner d'âge, bien entendu, et que là, il est quand même question d'enfants assez jeunes. Ce n'était pas des adolescents, c'était vraiment des enfants, je pense, assez jeunes.
Ce n'est pas de la maturité aussi de l'enfant.
Oui. Et c'est Dieu qui connaît les cœurs, pour chacun de nous. Hein.
Donc, l'éducation, les époques, beaucoup de choses. Hein.
Ouais. Il n'y a pas Il faut qu'il y ait l'âge de raison.
Ouais. Ok. Alors, on va continuer. Est-ce que quelqu'un veut lire les versets 17 à 27 ?
Comme Jésus se mettait en chemin, un homme courut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus d'ailleurs regardait l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va. » Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé ? Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.
Merci. Alors, donc là, nous rentrons dans une longue séquence en fait, qui va traiter de la question des richesses terrestres et de la gestion de ce que l'on possède. Alors, je dis longue parce qu'en fait, elle va rentrer jusqu'au verset 33, mais on n'aura pas le temps d'aller jusque-là ce soir. Et donc, on peut séparer cette séquence en fait en deux. Il y a d'abord l'échange avec l'homme riche, et après, il y a une autre séquence avec les disciples et leurs propres engagements vis-à-vis du Seigneur. Ça sera dans les versets 28 à 31, ou 33, entre ces 31, qu'on verra la prochaine fois. Donc, l'homme riche, en fait, on a envie de l'appeler le jeune homme riche, mais en fait, ici, c'est pas précisé qu'il est jeune. Il faut aller dans Matthieu 19, verset 20, si vous voulez aller le voir de l'autre côté, c'est là qu'en fait il est Matthieu précise qu'il est jeune. Et on a aussi une autre précision dans Luc 18, verset 18, qui parle aussi de cette scène, où là, on voit qu'il est appelé chef. Donc, cet homme riche, on sait qu'il est riche dans le verset 22 qu'on étudie, là, pour le coup, c'est dit, car il avait de grands biens, cet homme riche est jeune et chef. Voilà. Donc, c'était sans doute un homme brillant, un jeune homme brillant, comme il peut en exister. Première remarque, on voit qu'en fait il se jette à ses genoux, il se jette aux genoux du Seigneur pour lui demander comment obtenir la vie éternelle. En fait, déjà, ça en dit long sur l'effervescence qui devait agir en lui. Il a besoin vraiment de régler cette question. Il est suffisamment intelligent et sensible pour comprendre que sa réussite ne sera pas la clé de son bonheur. Il n'est pas en paix, en fait, il est vraiment tiraillé. Au verset 18, et le Seigneur lui dit « Pourquoi m'appelles-tu beau ?» En fait, ici, Jésus commence à orienter l'échange vers l'affirmation de la divinité, de sa divinité, de la divinité de Jésus. Puisqu'il l'appelle bon, et que seul Dieu est bon, appeler Jésus bon revient à reconnaître que Jésus est Dieu lui-même. Donc voilà comment le Seigneur déjà oriente le sujet. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon, il est en train de le focaliser sur vraiment « voilà qui je suis ». Et donc Jésus vient sur le terrain de la loi. En fait, c'est Jésus qui va le questionner sur la loi. Il rappelle par la même occasion, comme nous l'avons vu, qu'il ne s'oppose bien entendu pas à la loi, mais il la confirme, ou il peut la modifier à certains égards. Et donc ici, l'idée, c'est de comprendre que la loi est un canal pour arriver jusqu'à Christ, puisque l'aboutissement de la loi, c'est Christ. Ça, on peut le lire dans Galates 3, versets 23 à 24. Si quelqu'un le trouve.
Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.
Voilà. Et là, c'est intéressant de voir que Jésus reprend ce même canal pour amener cet homme en fait à se poser la bonne question. Donc, il lui demande s'il a bien respecté la loi, il lui dit que oui, il a l'air sincère dans sa réponse, mais est-ce qu'il va à présent vraiment comprendre pourquoi on lui a demandé de respecter ses préceptes? Est-ce qu'il va avoir la lucidité, cet homme, de se dire que finalement ce qui compte, ce n'est pas de respecter scrupuleusement cette loi, mais c'est d'en comprendre le but, c'est-à-dire l'amour du prochain. Oui. Tous ceux qui suivent la loi vont devoir malgré tout reconnaître leurs besoins de Christ dans ce moment-là, sans qu'il ne représente un rocher de scandale pour eux, parce que c'est ça qui a pu se passer. Et donc, cet homme-là arrive à un point où il doit basculer sur le registre de la foi en Jésus. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que nous lisons verset 21, « Jésus l'aima ». Oui, le Seigneur voit cette lutte qui est en train de se profiler dans le cœur de cet homme, et de voir ça, ça l'attendrit. Et il mesure sans doute toute la difficulté de la décision qui est à prendre. Et comme le Seigneur peut lire dans le cœur, il va lui poser la question qui tue, celle qui va tout révéler. Parce qu'il voit parfaitement en quoi cet homme place sa confiance et sa raison d'être, il voit le Seigneur que c'est ses richesses. Donc il met le doigt vraiment là où ça fait mal. Il lui dit donc, il te manque une chose, l'ultime chose pour faire ce pas de foi, va, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc, est-il prêt à abandonner ses richesses terrestres et croire que sa situation va changer pour devenir meilleure, paradoxalement? A-t-il cette foi dans le fait que finalement, ce n'est même pas son action envers les pauvres qui va lui apporter la paix qu'il recherche, mais c'est plutôt le fait de se décharger, de se dépouiller de ce faux Dieu qu'est l'argent pour se retrouver à nouveau dans une situation de dépendance vis-à-vis de Dieu et le placer dans une position où il sera prêt à suivre le Seigneur. Parce que c'est ça que Jésus demande, il dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. On voit que malheureusement, cet homme va repartir tout triste. Il n'arrive pas à basculer. C'est trop dur. On peut lire un Timothée 6, versets 17 à 19, qui peut nous faire penser à l'attitude de cet homme.
Je commande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle.
Voilà. Donc ce passage, c'est vrai, nous fait penser à cet homme qui n'a pas réussi à basculer, à changer en fait la nature de sa richesse. On voit ensuite dans le verset 23 à 27 que Jésus rappelle la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus en fait ici est en train d'apporter presque l'enseignement nouveau, qui n'est vraiment pas intuitif pour les disciples, parce qu'à deux reprises, on voit que les disciples étaient étonnés, ou encore plus étonnés. Donc on comprend que pour les gens de cette époque, avoir des richesses, ben c'était plutôt en fait un signe de bénédiction. Dans une société où la valeur de l'honneur est très importante. En fait, on considérait que la richesse pouvait être le fruit d'une bonne conduite. Et l'image que le Seigneur a donnée au verset 25, quand il parle du chameau qui passe par le trou d'une aiguille, c'est très clair. Placer sa confiance dans les richesses n'est absolument pas la voie à suivre pour rencontrer le Seigneur. C'est une fausse route. Alors oui, ces propos brouillent un peu l'esprit des disciples au verset 26. On voit en fait ici tout le poids des traditions que l'on reçoit de son environnement culturel. Là, c'est vraiment un signe où leur culture leur disait que c'était plutôt bon signe d'avoir des richesses. Donc Jésus a enseigné véritablement les disciples à reconsidérer leur compréhension du royaume de Dieu, qui s'appuie non pas sur ce qui frappe les yeux, mais le chemin qui mène au Seigneur est un chemin étroit, qui nous appelle à l'humilité et à la dépendance totale en Christ. Là encore, le Seigneur est en train de montrer la voie aux disciples et d'essayer de les préparer à ce qui va arriver, à tout ce qui va arriver à Jérusalem. On peut lire aussi un Timothée 6, verset 9 à 10, toujours dans un Timothée 6, qui nous rappelle aussi cette compréhension de la richesse terrestre.
Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
Voilà. Donc, heureusement, le Seigneur rappelle que ce qui est impossible aux hommes peut être possible à Dieu, ce qui veut dire que on comprend bien hein, qu'il existe des richesses et que des personnes peuvent avoir de l'argent, mais que voilà, il ne faut pas placer sa confiance là-dedans. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous domine ou quelque chose qui soit vraiment qui prenne la place de Dieu. On comprend bien vraiment ce que dit le Seigneur. Et donc ça, c'est quand même, on s'en rend compte, un enseignement assez nouveau pour la culture de l'époque. Et donc je vous donne un petit peu en vrac les applications et comme un peu des questions à méditer par rapport à ce qu'on vient de voir. Première chose, c'est de se dire que Jésus regarde avec amour celui dont il sait qu'il ne le suivra pas. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase. À la lecture, je ne reconnaissais pas ce terme. Ce que je veux dire, c'est que Jésus, on voit Jésus l'aima Et Jésus sait déjà, en fait, quelle va être la réponse de cet homme. Et ça, ça nous invite aussi à aider tout le monde et à ne pas ménager nos efforts quand on doit parler de l'Évangile à quelqu'un et à vraiment avoir cette attitude de se dire que s'il y a la personne... En fait, il ne faut pas qu'on cherche à sélectionner les personnes à qui on va annoncer la bonne nouvelle, mais vraiment, notre travail, c'est d'aimer tout le monde, aimer ceux qui sont perdus, pour vraiment ensuite agir, poussé par le Saint-Esprit. On peut aussi faire un parallèle entre les mains vides, des enfants, il y a rien dans les mains, et par contre, les mains pleines de gens riches, là, on voit effectivement ce que le Seigneur a dit, c'est-à-dire que, quelque part, d'avoir de l'abondance, c'est un danger. Ça crée en nous un danger sur la dépendance que nous devons au Seigneur. Quelle serait ma propre question qui tue ? Voilà. Qu'est-ce qui me poserait le Seigneur comme question ? Il mettrait le doigt sur quoi dans notre vie ? C'est des choses aussi qu'on peut se poser de manière personnelle. Et aussi, quelle influence de mon environnement culturel dans ma marche avec Christ ? C'est-à-dire que là, en fait, on voit qu'ils avaient une compréhension des richesses qui était en fait dangereuse. Et nous, c'est pareil, hein, on a tout un tas de choses dans notre culture qui peuvent, des fois, nous amener à ne pas bien comprendre les intentions de Dieu pour nous. Donc, ce sont des choses aussi à méditer. Voilà, donc on a terminé. Est-ce que vous voulez apporter quelques précisions ?
Oui, je voulais partager le fait que ce texte était le texte qui a parlé à un dénommé Pierre Baldo, riche marchand lyonnais, en plein Moyen-Âge. Il aurait pris ce texte à la lettre, elle aurait vendu tous ses biens, comme ça, pour l'histoire peut-être. Et voilà, il aurait commencé à prêcher l'évangile, quoi. Et il a été à l'origine d'un mouvement valdais et un italien, qui s'est répandu au Moyen-Âge. J'ai partagé ça récemment sur un groupe Facebook d'ailleurs, parce que je connais assez bien cette histoire, puisque j'ai vécu près des vallées vaudoises en Italie, j'ai fait plusieurs voyages là-bas. C'est un voyage à faire. Si vous voulez faire un voyage édifiant, il y a un musée aussi, un peu comme le musée du désert, et c'est très édifiant de voir le courage de ces chrétiens du Moyen-Âge qui ont été violemment persécutés, mais qui ont persévéré. C'est une belle histoire.
D'accord.
C'est un peu les pendants des cathares.
C'est à la même époque, oui, effectivement. Mais bon, au niveau doctrinal, il y avait quand même des différences. Oui, c'est vrai, c'est un peu la même époque. Oui.
Moi, quand j'ai lu ce texte récemment, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai relu l'évangile de Marc, je me suis aperçue que Jésus ne donnait pas l'intégralité des commandements. Parce qu'il aurait pu réciter, il aurait pu lui donner tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et c'est vrai que ton éclairage, en fait, s'il avait aimé Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, il aurait une assurance complète. Parce que tout découle de ça, en fait. Quand on voit le reste des commandements, c'est d'abord ta relation à Dieu et ta relation aux autres. Et tout le reste en découle.
C'est le véhicule. En
ouais.
D'une certaine manière, on peut se demander si... Enfin, il est très probable que ses biens, ses richesses, sa condition matérielle l'ont aussi rendu totalement aveugle sur son rapport à ses commandements. Parce que tu ne feras de tort à personne. Quand il dit j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, bah, il a une idée de lui-même qui est...
Oui. Ouais. Ouais. Moi aussi, oui.
C'est un peu ambitieux. Quoi.
Mm-hmm. Moi, je voulais juste relever ce que je... En fait, dans beaucoup de sujets, je ne renforce pas uniquement à l'époque, mais vraiment même maintenant. Il y a beaucoup de milieux chrétiens dans lesquels avoir des richesses, avoir une position sociale, réussir dans les affaires, réussir à l'école, etc., est un signe extérieur d'une bonne maturité spirituelle, d'une acceptation de Dieu, d'être aimé par Dieu, etc. Mm. C'est un baromètre en quelque sorte, et celui qui n'a pas réussi à l'école, celui qui n'a pas réussi dans la société, celui qui est pauvre, en quelque sorte il est maudit, il n'est pas agréable à Dieu, et c'est pour ça que Dieu l'a l'a laissé dans cette situation. C'est vraiment terrible, ça fait beaucoup de ravages dans beaucoup de milieux. Et vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe notamment aux États-Unis. Dans certains milieux évangéliques, c'est prôné très très fort.
On avait vu d'ailleurs que c'était un reproche qui était fait à l'apôtre Paul de se contenter de très peu et de prêcher gratuitement et voilà, d'avoir un statut qui n'était pas forcément très évolué, mais en fait parce qu'il se concentrait sur l'essentiel.
Et en fait, les valeurs ont été renversées parce que là, nous apprenons par les évangiles, bon, comme tu as dit, les enfants, les pauvres en esprit, etc., et les trônes du royaume de Dieu. Et là, dans ces milieux-là, on dit non, mais c'est pas ça, c'est exactement l'inverse. Que ceux qui sont riches, ceux qui ont une bonne situation, donc qui sont agréables à Dieu, c'est eux qui vont hériter du royaume. Comment les choses ont été renversées dans l'autre sens? Et c'est vrai que vraiment c'est très important de comprendre comment Jésus, notre Seigneur, a remis les choses dans le bon ordre, parce que les hommes ont renversé souvent les valeurs. Les valeurs de l'évangile de la prospérité, il y a plein de choses comme ça. C'est un signe extérieur de la bénédiction de Dieu, de la bonne conduite, en fait la piété se mesure au nombre de... aux richesses que tu possèdes. Et à ta réussite sociale, à l'école, dans les études, dans ton emploi. Si tu es médecin, au lieu d'être balayé de rue, si tu es avocat, au lieu d'être dans ta mine là-bas, enfin bref, tout ça, ça a été renversé. Les choses ont été inversées.
Pour bien marquer le renversement, le Seigneur a pris une image très parlante avec le chameau, le trou d'aiguille, voilà, mais c'est pas possible. Donc, il a voulu frapper les esprits.
Un très bel exemple de la richesse, moi je trouve, c'est Zachée.
Oui.
Parce que secrètement, il était très mal vu dans la société. Oui. Et secrètement, il donnait la moitié de ses richesses. Et il avait une soif de Jésus jusqu'à monter dans un arbre. Et Jésus, qui voit dans le cœur, a reconnu que cet homme riche avait cette soif de lui. Et on a vraiment ce pendant de la richesse, mais qui, avec un cœur qui était complètement différent en fait.
Ok, on va conclure. Est-ce que quelqu'un... Ok, tu voulais...
Non, c'est lui qui faisait mieux.
Je disais que Elon Musk est mal barré.
Bonne conclusion. Et si on essaie de
trouver ça. Ouais. Ça vient d'accompagner.
Peut-être, est-ce que Maurice, tu veux prier pour terminer?
Oui, Père éternel, on veut te dire merci pour voilà, ce temps où nous avons pu être enseignés dans ta parole. Nous avons pu goûter un petit peu aux richesses et à la profondeur de cette parole précieuse, Seigneur. Et on veut voilà, repartir, Seigneur, en ayant ce désir d'avoir la même attitude de cœur que les petits-enfants lorsque nous venons à tes pieds, Seigneur. Parce que voilà, on l'a vu, Benjamin nous l'a bien dit, nous ne pouvons pas venir devant toi, ni par notre obéissance au commandement, ni par nos richesses, Seigneur. Seigneur, tu regardes cela de loin et tu n'y vois pas un quelconque avantage, Seigneur, car tu connais l'état de nos cœurs, tu connais l'état de notre péché, Seigneur. Et nous avons simplement besoin de venir à toi avec des cœurs humbles, Seigneur. Vraiment, je te prie que nous puissions être nous humilier devant toi et que nous puissions aussi être des témoignages vivants. On l'a vu, le Seigneur ne fuit pas devant les sujets sensibles. Et voilà, nos proches autour de nous, peut-être parfois abordent ces sujets-là et que nous puissions refléter ton évangile, ton royaume, et ne pas fuir devant ces sujets. Le faire à la fois avec douceur, mais en même temps avec intégrité, Seigneur. Et je te prie vraiment de bénir chacun ce soir, que nous puissions repartir avec la paix que tu donnes. Au nom de ton Fils. Amen.
Amen. Amen.